Bonjour, mon nom est Jess Fafard-Théoré et je suis le coordonnateur de la chaire de recherche sur le sport responsable de l'Université de Sherbrooke. En 2023, un rapport de recherche commandé par l'Agence mondiale antidopage a été publié par une équipe de chercheurs. Le rapport s'intitule « Vulnérabilité physique et psychologique et dopage en cyclisme de haut niveau, mécanismes explicatifs explicites et implicites ». La première étude de ce projet s'intitule « Le dopage dans le cyclisme d'élite, une étude qualitative des situations de vulnérabilité sous-jacente ». L'objectif de ces épisodes de balado est d'expliquer le rapport, ses analyses ainsi que ses conclusions. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les épisodes 1 et 2, nous vous invitons à le faire avant de poursuivre. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de recevoir Mme Karine Corion, enseignante-chercheure, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur à Nice et membre du laboratoire Motricité humaine, expertise sport santé. Mme Corion, premièrement, bienvenue.
Merci pour votre accueil.
Tout le plaisir est pour moi. Ce rapport est très vaste. D'emblée, je vous propose de situer le sujet. Donc, question très large. De quoi parle-t-on?
Alors, on parle du dopage dans le cyclisme d'élite, tout d'abord. Alors, cette première étude de ce projet a cherché à identifier les situations de vulnérabilité de différentes natures, qu'elles soient physiques, psychologiques, relationnelles ou contextuelles, susceptibles d'expliquer le recours à des produits dopants chez les cyclistes de haut niveau. C'est un projet de recherche financé par l'Agence mondiale antidopage.
Et pour rappel, quel était l'objectif de cette étude dans ce projet global?
Alors, dans ce projet global, elle visait à étendre les connaissances existantes en explorant et en tentant de catégoriser simultanément différentes situations de vulnérabilité qui prédisposent les cyclistes de haut niveau à se doper.
Et comme nous l'avons dit, nous en sommes déjà au troisième et dernier épisode. En quelques mots, de quoi avons-nous parlé dans les épisodes 1 et 2?
Alors, dans l'épisode 1, nous avons expliqué l'ensemble du projet ainsi que les premiers résultats trouvés. Pour rappel, l'analyse nous a permis de catégoriser différentes situations de vulnérabilité chez les cyclistes, physiques, psychologiques, relationnelles et contextuelles. Ainsi, dans le premier épisode, nous avons parlé des situations de vulnérabilité physique. Et dans le deuxième, nous nous sommes penchés alors sur les situations de vulnérabilité plutôt psychologiques.
Et pour ce troisième épisode, nous allons nous attacher particulièrement à décrire les situations de vulnérabilité relationnelles et contextuelles. Les analyses vous ont permis de caractériser les situations de vulnérabilité relationnelle selon trois sous-thèmes.
Tout à fait. Le premier sous-thème, le dopage organisé et de pression sociale. Le deuxième, emprise et situations de harcèlement sexuel ou moral. Et enfin, le dernier, approbation sociale du dopage.
Ensuite, en ce qui concerne les situations de vulnérabilité contextuelle, elles ont été divisées également en trois sous-thèmes.
Oui. Le premier, la culture cycliste. Le deuxième, les conditions environnementales et climatiques. Et enfin, le dernier sous-thème, les enjeux compétitifs.
Tout d'abord, qu'avez-vous identifié pour les situations de vulnérabilité relationnelle?
Alors, pour les situations de vulnérabilité relationnelle, les comportements dopants sont souvent apparus lors de situations caractérisées par une forme d'organisation du dopage supervisée, où des membres externes, souvent le médecin ou le manager de l'équipe, se chargeaient de fournir des substances et d'administrer les dosages, et exercer une pression finalement. Les cyclistes se sont conformés, ont subi une pression et ont suivi les instructions de cette figure d'autorité. Ainsi, certains cyclistes précisaient lors des entretiens.
Ils m'ont dit « Tu n'as pas à t'inquiéter. Il y aura un médecin avec toi pendant les courses préparatoires autour de X. Il s'occupera de toi. » C'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec le dopage.
Ou alors?
Le soir, des personnes du staff sont venues me voir. Et puis, ils ont dit « Oh, vous venez d'avoir un résultat fantastique. Avez-vous déjà pris de la cortisone? » « Non. Pourquoi? » « Écoutez, le médecin est ici. » Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Il vous donnera un protocole pendant 5 jours jusqu'à la fin de la course et il vous fournira de la cortisone sous forme de comprimé.
De plus, au cours des entretiens, 5 cyclistes représentant la moitié de l'échantillon ont déclaré avoir vécu des périodes d'emprise ou d'harcèlement sexuel ou moral.
Oui, tout à fait, notamment de la part de l'entraîneur. Ainsi, certains d'entre eux ont eu recours au dopage pour faire face et rester concentrés à la suite d'un événement traumatisant tel qu'un abus sexuel ou la perte d'un être cher. Par exemple, dans l'extrait suivant.
Parfois, ils me disent « Oui, tu es grosse. Oui, tu ne marches pas. Je regrette de t'avoir amenée cette année. Alors, quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, j'ai dit « Bon, oui, je vais sauter le pas parce que là, j'en ai marre. »
Ou alors?
Moi, qui lui suis complètement soumise maintenant parce que, à cause de la violence que je subis quotidiennement, puis avec toutes les menaces qu'il va se suicider, qu'il va m'assassiner et tout ça, Sa solution pour me sortir de mon anémie a été de prendre de l'EPO. J'ai X années. Je n'y connais rien. Je sais que c'est mauvais. Mais je me dis encore une fois, je ne veux pas qu'il se suicide.
Oh, c'est chargé tout ça. Et Karine Gorion, un autre sous-thème des situations de vulnérabilité relationnelle était l'approbation sociale du dopage.
En effet, cela concernait l'entourage du cycliste, en particulier la famille et les coéquipiers, qui semblaient le soutenir en ce qui concerne le comportement de dopage. Les cyclistes ont signalé que leurs proches étaient restés silencieux, par exemple lors de cet extrait suivant.
Oui, elle savait. Elle savait que nous avions des préparations médicales. Elle a vu dans le frigo qu'il y avait un petit sac avec des ampoules dedans. Mais elle ne s'est pas interrogée et on n'en a pas parlé.
Ou ils les ont même perçus comme encourageants, par exemple.
Eh bien, lui, son père décédé, aurait voulu que je le fasse, le dopage. Donc, il me l'aurait donné. Il m'aurait dit, tu dois prendre des trucs, tu sais. De cela, j'en suis certain.
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de parler des situations de vulnérabilité contextuelle. Le contexte culturel semble avoir joué un rôle important dans la tendance au dopage, puisque 10 participants ont mentionné un lien entre la culture du cyclisme et le dopage.
Tout à fait. Plus précisément, les cyclistes ont identifié l'ère pré-Festina, c'est-à-dire avant 1998, comme une période à haut risque de dopage.
J'ai grandi, vous savez, à l'époque où les athlètes que je suivais sur le Tour de France et les grandes courses cyclistes de renom dans les années 90 étaient assez dopés. Donc pour moi, c'est une association directe. Dès que j'allais être dans le cyclisme de haut niveau, que ce serait quelque chose que je ferais. Ce n'était pas une surprise pour moi que cette tentation se présente à moi.
Ou alors l'extrait suivant.
La culture cycliste signifie que, eh bien, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais je parle, ça fait presque 40 ans. Il y a 40 ans, elle faisait partie du monde du cyclisme. C'était banal et c'était normal. C'était normal d'essayer des choses, d'essayer des produits, puis les contrôles n'étaient pas aussi systématiques. Il y en avait, mais ils n'étaient pas aussi systématiques qu'aujourd'hui. Puis, dans l'imaginaire et la culture du sport de l'époque, on ne s'en cachait pas beaucoup. Cela se passait encore derrière l'église, dans le village où se déroulait le critérium. Mais si nous parlions de produits qui étaient utilisés dans ce contexte, sinon, ce n'était pas tabou.
La culture cycliste semblait intrinsèquement liée au dopage, ou vice-versa. C'est ce qu'illustre un jeune cycliste qui raconte.
J'ai pensé que le PO, comme c'est assez connu dans le monde du cyclisme, je me suis dit que si beaucoup de gens l'utilisent, c'est qu'il faut vraiment qu'il fonctionne bien, qu'il fonctionne efficacement pour la performance dans le monde du cyclisme. Donc, bien sûr, le cyclisme est un sport, vous avez besoin d'oxygène. Il vous fournit plus d'oxygène et tout. Donc, naturellement, vous devez avoir une différence significative.
Par ailleurs, un autre type de situation de vulnérabilité contextuelle est la pratique en extérieur du cyclisme.
En effet, dans le cyclisme, les conditions environnementales et climatiques, et plus précisément météorologiques, telles que la lutte contre le froid ou la chaleur, semblent avoir joué un rôle prépondérant dans le comportement motivé de dopage chez 6 participants sur 10. Ainsi, un cycliste précisait.
Parce que c'est un sport difficile, parce qu'on a froid, parce qu'on ressent de la douleur, parce qu'il y a tout un discours sur la douleur, c'est aussi là que les aspirations s'entrechoquent. C'est très dur d'avoir froid, c'est très dur de dormir dans des endroits déprimants.
Enfin, Karine Gorion, pour la moitié des cyclistes interrogés, le dopage a été déclenché dans des situations où les enjeux étaient importants.
Oui, en effet, tant sur le plan professionnel que financier. Regarde l'extrait suivant.
Ensuite, quand on est sportif, on est fragile, parce que quand il n'y a pas de résultat, on s'inquiète. Vous êtes inquiet, d'une part, parce que vous êtes sous le feu des projecteurs. D'autre part, parce que votre contrat va être renouvelé. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, puis l'inquiétude s'installe. Donc, demandez beaucoup de choses.
Ou alors, cet extrait.
Mais si nous voulions obtenir des classements dans les courses cyclistes et que nous avions besoin d'argent pour rentrer, eh bien, je n'avais pas le choix, vous savez.
Cet épisode 3 nous a offert un aperçu des aspects spécifiques de situations de vulnérabilité relationnelle et contextuelle.
Oui, tout à fait. Et fait intéressant, nos résultats ont indiqué que pour un même individu, le comportement finalement émergeait parfois d'un contexte où la tentation était induite par un professionnel de santé ou un responsable d'équipe qui promettait le succès en échange de la confiance et de la coopération dans le dopage. Dans le même temps, Ces mêmes sportifs ont décrit des cas où le dopage s'est produit dans des situations de solitude, d'isolement, sans discussion ni consultation préalable avec qui que ce soit. Ils ont eu recours au dopage lorsqu'ils n'ont peut-être plus pu surmonter les défis et n'ont pas cherché l'aide nécessaire. Ces résultats suggèrent donc que les situations de vulnérabilité relationnelle évoluent au cours de la carrière d'un cycliste. Ces observations corroborent la littérature existante, qui d'une part suggère que les actions liées au dopage apparaissent parfois dans un ensemble d'actions coordonnées et collectives au sein d'un groupe de sportifs gérés de manière hiérarchique. Une découverte inattendue, du moins en ce qui concerne son importance, liée à la prévalence du harcèlement et des abus sexuels au sein de la communauté cycliste. Cette question a été spontanément mentionnée par la moitié de notre échantillon, composé d'hommes et de femmes.
Et c'est dès lors que le dopage se produit.
Oui, parce que l'entraîneur l'impose explicitement, soit parce que le sportif considère le dopage comme le seul moyen de répondre aux attentes de son bourreau, ou soit parce que le dopage apparaît comme l'expression d'émotions insupportables. Le phénomène pourrait être attribué à l'influence prépondérante des entraîneurs et des directeurs sportifs dans le milieu cycliste. Par ailleurs, certains traits de personnalité propres aux sportifs de haut niveau, en particulier les cyclistes, tels qu'un niveau élevé de perfectionnisme, pourraient être un facteur les rendant plus vulnérables à l'influence d'un référent promettant le succès, comme par exemple l'entraîneur. Cette catégorie met en évidence d'autres problèmes systématiques qui peuvent non seulement influencer les comportements de dopage, mais aussi créer une culture de vulnérabilité et d'exploitation qui doivent être prises en compte pour de futures préventions de ces comportements de dopage. De plus, le cyclisme est un sport populaire, profondément ancré dans la sphère familiale. Les cyclistes, dans nos entretiens, ont rapporté que les conjoints ou les parents qui étaient au courant du dopage n'ont souvent pas manifesté de réaction forte. Par conséquent, l'aspect familial de la culture cycliste a apporté une dimension supplémentaire à notre compréhension des comportements de dopage dans ce sport. Elle a finalement confirmé l'interaction entre les normes sociales et les attentes qui pourraient contribuer à la poursuite ou à l'initiation du dopage. Cela pourrait également impliquer que l'acceptation, ou du moins l'absence de désapprobation ouverte de la part des membres de la famille proche, peuvent servir à normaliser davantage les comportements de dopage, renforçant ainsi les mécanismes de désengagement moral identifiés dans notre étude.
Vous avez souligné que le dopage dans le cyclisme se produisait à la fois dans des comportements organisés et structurés, ainsi que dans des actes isolés à l'abri des regards indiscrets.
Tout à fait. Notre étude confirme l'existence d'un héritage historique de dopage organisé, souvent dans les limites d'une équipe. Ainsi, les premières rencontres avec le dopage ont lieu de manière supervisée ou autonome. Un sous-ensemble plus restreint de sportifs, principalement issus des jeunes générations, a initié le dopage de son propre chef, sans en discuter au sein de son cercle sportif. Car la croyance persiste parmi ces jeunes sportifs dotés de manière indépendante que tout le monde le fait. Ce changement reflète un contexte culturel changeant, notamment influencé par le scandale Festina, qui a marqué les esprits, comme en témoignent nos entretiens.
Une autre caractéristique contextuelle intrinsèque au cyclisme était l'exigence physique de sport qui se déroule à l'extérieur.
Oui, plus de la moitié de l'échantillon a mis en évidence les défis posés par les conditions environnementales. Lutter pendant des heures contre le froid ou maintenir un effort prolongé sous une chaleur torride et sous un soleil de plomb semble contribuer au développement de comportements dopants chez ces cyclistes. Les exigences en termes d'entraînement et de performance, combinées finalement aux conditions météorologiques, peuvent influencer la santé globale du sportif pendant les périodes d'entraînement ou de performance intense.
Et enfin, des enjeux compétitifs vous sont apparus lors des entretiens, mais dans une moindre mesure.
Oui, en effet, ce constat nous éloigne de la vision simpliste selon laquelle le dopage est uniquement une question d'argent et met plutôt en évidence la complexité de ses causes sous-jacentes.
Et en terminant, à partir des conclusions de l'étude, quelles sont les perspectives?
Alors, notre étude a permis de retracer le parcours des sportifs afin d'identifier les situations difficiles de vulnérabilité rencontrées au cours de leur carrière qui les ont conduits au dopage. Cette étude nous a permis d'élargir notre compréhension des situations de vulnérabilité qui prédisposent les cyclistes au dopage en fournissant une catégorisation plus claire et exhaustive de ces situations. Cette vue d'ensemble a permis une compréhension holistique des différentes vulnérabilités qui convergent vers le dopage et qui comprennent des aspects tant physiques, psychologiques, relationnels et contextuels. Pour les cyclistes, le dopage est une stratégie pour faire face à leurs défis et non seulement répond à leur volonté de victoire, mais sert aussi, parfois, de moteur émotionnel pour s'échapper ou en dernier recours lorsque la pression devient insupportable. Le dopage dans le cyclisme a son propre contexte, marqué par une longue histoire où le dopage était autrefois organisé et structuré dans le cadre de l'équipe. La nature intrinsèquement exigeante du sport pousse finalement les cyclistes à adopter des stratégies qui peuvent contourner les règles pour résoudre les problèmes, tels que une récupération inadéquate, des pressions financières, du harcèlement ou, comme nous l'avons vu, des conditions météorologiques difficiles.
Et ce qui ressort de ce que vous nous avez présenté, c'est que les sportifs dopés sont profondément caractérisés par leur désir irrésistible d'être les meilleurs, d'être les champions.
Oui, ils se trouvent plus en danger précisément parce qu'ils semblent inarrêtables, même face à l'épuisement ou aux échecs répétés. Nous pouvons émettre l'hypothèse que ceux qui sont moins motivés par la soif de victoire, peut-être moins résilients, sont peut-être plus sensibles à leurs limites, ce qui leur permet de se rétablir ou même de reconsidérer leur ambition de carrière de haut niveau. Ce cas d'analyse avec les différentes situations de vulnérabilité ainsi énoncées, c'est-à-dire physiques, psychologiques, relationnelles et contextuelles, devrait faciliter les recherches futures dans l'examen des vulnérabilités et de leur interaction, tout en tenant compte des facteurs dispositionnels du cycliste, intrinsèques au cycliste. D'un point de vue plus pratique, ça devrait également contribuer à améliorer le dépistage, mais aussi la prévention du dopage, ainsi qu'à fournir des environnements plus favorables aux sportifs, leur permettant de faire face à ces situations de vulnérabilité et de résister au dopage.
Merci beaucoup, Karine Corion. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheure et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et coordinateur du rapport de recherche qui nous intéresse. Je rappelle le titre « Vulnérabilité physique et psychologique et dopage en cyclisme de haut niveau, mécanismes explicatifs explicites et implicites ». C'était le dernier épisode d'une série de trois et je vous invite d'ailleurs à écouter les deux premiers épisodes si vous ne l'avez pas déjà fait. Madame Corion, des remerciements?
Oui, en effet, je voudrais quand même remercier toute notre équipe qui a pu permettre cette étude, permettre de faire des entretiens, permettre d'analyser et d'identifier finalement ces situations de vulnérabilité. Je voudrais également remercier notre doctorante Valentine Filleul, associée à ce projet, mais aussi Fabienne Dary-Plongeville qui a co-dirigé cette thèse et tous les chercheurs associés avec ce travail collaboratif comme Madame Stéphanie Mériot de l'Université Côte d'Azur, Monsieur Deniot de l'Université de Lausanne en Suisse, Monsieur David Pavot de la chaire de recherche sur le sport responsable de l'Université de Sherbrooke, Canada, et aussi finalement les experts de terrain sans qui rien n'est possible dans la recherche auprès des sportifs, comme M. Éric Ménadier et M. Jacques Maillot de la Fédération française de cyclisme et Louis Barbeau de la Fédération québécoise de sport cycliste.
Et pour une dernière fois, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous de me permettre de montrer ce rapport de recherche et le diffuser au plus grand nombre. C'est important quand on est chercheur à l'université et qu'on veut impacter finalement le terrain et être utile dans la recherche scientifique. Ce lien théorie-pratique est vraiment important. Ce balado de trois épisodes nous permet cela. Merci beaucoup.
Et d'ailleurs, parlant de diffusion des connaissances, si vous êtes intéressé à en savoir plus, nous vous invitons à consulter les plateformes numériques de l'Agence mondiale antidopage et du laboratoire Motricité humaine, Expertise sport, santé de l'Université Côte d'Azur. Évidemment, le rapport s'y retrouve avec plein d'autres informations. Nous vous invitons à aller consulter ça en ligne. Et Karine, peut-être une prochaine fois?
Une prochaine fois, j'espère.
Merci.
Au revoir.